Aujourd'hui, 5 août, Agathe. 18h25. Elle veut partir. J'ai réussi à gratter 10 minutes, mais quand j'ai tenté de prolonger encore, elle m'a envoyé son regard mitraillette. Je suis remontée à la serviette plus vite que si j'avais frôlé un aileron. On pourrait aller boire l'apéro au hall? Je l'ai pas vue venir, celle-là. Je nous imaginais partis pour une soirée télé et pisse-mémé, et voilà que c'est elle qui propose une sortie. Bonne idée? Tu me laisses 5 minutes pour sécher et on se met en route? Absolument pas, je préfère qu'on y aille trempé et à moitié à poil. Je secoue la tête. Elle rit. J'ai perdu le rythme de nos échanges. C'est une musique que je redécouvre. Je me laisse tomber à côté d'elle, sous le parasol. Elle sort une serviette de bain et s'essuie consciencieusement. T'aimes plus le soleil? Je demande. C'est mauvais pour la peau. C'est pour ça que t'es partie vivre au pôle Nord? Strasbourg n'est pas exactement le pôle Nord. Tu pouvais pas faire plus loin d'ici. C'était l'idée. Silence. Elle pose sa tête au sol et ferme les yeux. De fines veines marbrent ses cuisses. Elle a maigri. Elle semble presque frêle, elle qui a toujours été la costaude de nous deux. On y va? Elle se relève et enfile sa robe sur son maillot de bain rétro qui lui couvre les épaules et les fesses. Je l'imite. L'envie de chialer en prime. Je ne les imaginais pas comme ça, nos retrouvailles. J'étais assez crédule pour penser que, si elle tenait à ce qu'on passe cette semaine ensemble, c'était pour se rapprocher. À quoi bon être côte à côte si on reste à distance? On rejoint mon scooter sans un mot. Nous voilà revenus à l'époque des bouderies, quand on ne se causait plus. Elle était la plus forte à ce jeu. Moi, je débordais. Je hurlais, je pleurais, je tapais, je détruisais. Elle a toujours su cacher mieux que moi cette tempête intérieure. « Conduis doucement, s'il te plaît, me dit-elle en enfilant son casque. Oh, tu me l'as déjà dit à l'aller. » Elle voulait venir en voiture. J'ai réussi à la dissuader, on aurait mis des heures à trouver une place. Quand elle a compris qu'on allait prendre mon scooter, j'ai eu droit à un examen du code de la route accéléré. J'ai roulé aussi lentement que la gravité nous le permettait sans tomber, mais malgré ça, elle a passé le trajet agrippé à ma taille comme une ventouse à son évier. Le retour est moins douloureux. Elle fait le choix de se tenir au poignet, si ce n'est qu'elle manque de décoller à chaque dos d'âne. « Prums !» lance-t-elle en arrivant chez Mima. J'ai pas le temps d'enlever mon casque, elle s'est déjà précipitée dans la salle de bain. Je fume une clope dans le jardin en attendant qu'elle se douche. Le cendrier en terre est posé au pied du tilleul. Il est propre, et ce constat suffit à me piquer les yeux. J'entends encore Mima m'engueuler parce qu'il déborde de mégots écrasés. Comme toujours, c'est elle qui finissait par le nettoyer, avant de le reposer là où je le trouverais. Son problème? Ce n'était pas que le cendrier déborde, c'était que je fume. « Tu as passé 3 semaines en couveuse pour que tes poumons se développent », elle me répétait souvent, « et maintenant tu les brûles avec tes cochonneries. Si on avait su, on aurait débranché la machine, tu nous aurais coûté moins cher. » J'avais l'habitude, pourtant chaque fois c'était le même fou rire. Elle était prête à tout pour nous faire rire. Ma clope consumée me brûle les doigts. J'en rallume une, en l'honneur de Mima. J'ai passé ma vie à penser que je ne survivrais pas à sa mort. Depuis que je l'aime, je redoute de la perdre. Petite, chaque fois que le téléphone sonnait tard, chaque fois qu'elle ne répondait pas tout de suite, chaque fois que les sourcils de ma mère se fronçaient en entendant une nouvelle, je savais qu'elle était morte. Je ne le croyais pas. Je le savais. Je pleurais sur son corps sans vie. J'assistais à son enterrement. Je ressentais violemment son absence. Et puis j'apprenais qu'elle allait bien, que c'était autre chose. Et alors je suffoquais de bonheur, je remerciais le ciel, le destin, le téléphone, ma mère, tout ce que je pouvais remercier, et la vie devenait tout à coup délicieuse, formidable, extraordinaire. Un psy m'a dit un jour que les hypochondriaques étaient ceux qui supportaient le mieux l'annonce d'une maladie grave. Ils s'entraînent tellement que, quand ça arrive, ils sont prêts. Mais ça marche pas pour moi. J'ai eu beau répéter toute ma vie, je suis pas prête pour l'absence de Mima. Je vois pas comment le monde peut continuer à tourner sans son pivot. Je vois pas comment je pourrais un jour me remettre d'avoir perdu la seule personne qui ne m'a jamais laissé tomber. Emma sort de la maison et me rejoint. Ses cheveux courts gouttent sur sa robe. « Tu peux y aller, » fait-elle. J'écrase ma cigarette, mais je reste assise dans l'herbe. Elle m'observe, puis s'assied à mes côtés. On se tient un moment silencieuse, face à la maison qui abrite pas mal de nos souvenirs. Emma pose sa tête sur mon épaule et murmure. « T'as vu? Il y a des coquelicots. »